ce que, de fait, l'écriture nous montre à travers saint Paul et saint Jean. On pourrait prendre aussi la question du royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et pourtant, il commence en ce monde. Et l'Église est le royaume de Dieu. Jésus est roi. Jésus est le bon pasteur, il est le roi, il est la tête. Il est le prêtre. Et l'Église est soumise à ce bon pasteur. Et l'Église est toute relative à Jésus. De lui, elle retourne vers lui. Et vous voyez, si on essaie de réfléchir un peu sur ce mystère de l'Église, on voit que c'est le mystère de la grâce qui est le lien entre les membres et la tête, entre la pierre angulaire et chacun d'entre nous, comme pierre taillée pour le temple de Dieu, le lien entre l'époux et l'épouse. Ce serait très intéressant, vous voyez, de creuser un peu toutes ces comparaisons en les voyant par rapport au mystère de la grâce. La grâce en elle-même, et on ne la voit pas suffisamment dans cette perspective de l'Église qui nous montre le comment de la grâce, comment la grâce chrétienne se trouve réalisée. Et la grâce chrétienne se trouve réalisée dans le fait qu'elle fait qu'il y a le corps mystique, qu'il y a les membres, qu'il y a les rameaux et le cep, qu'il y a les pierres et la pierre angulaire, qu'il y a l'épouse et l'époux. Chaque fois, on verrait des modalités de la grâce. Ça, c'est très important pour nous, voyez, de reprendre, parce que ça aiderait beaucoup à faire comprendre ce que c'est que la grâce. Quand on la voit de façon trop abstraite, on voit plus. Or, il faut toujours revenir, il ne faut jamais oublier. Il faut toujours revenir à l'Écriture. Il ne faut jamais s'arrêter aux conclusions théologiques. L'Écriture est plus concrète que la théologie. Et dans un enseignement catéchétique, il faut la théologie. Mais on revient à l'Écriture. Et c'est l'Écriture qui enseigne, c'est l'Écriture qui nous aide. L'Écriture et les gestes du Christ. Et c'est sûr que dès que vous creusez un tout petit peu ce que c'est que l'Église, au point de vue théologique, ben c'est évident que l'Église, c'est la grâce du Christ participée, communiquée aux hommes. Cette grâce qui s'épanouit dans la foi, l'espérance et la charité. Mais cette grâce, de fait, a ce très grand mystère particulier qui fait que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont le même amour. Et donc, la grâce nous sanctifie personnellement. Mais elle ne peut pas nous sanctifier sans que nous portions les autres. Et c'est ça le grand mystère de l'Église. On est tous liés au même mystère. Et on ne peut pas, de fait, s'isoler. Ah, vous allez dire, les ermites. Ah, les ermites, ils ne s'isolent pas. C'est pas un isolement, les ermites. C'est tout simplement vivre. âmes de tous les hommes dans le Christ. Ajoutez ça tout de suite, pas au point de vue humain. Point de vue humain, c'est faux de dire que j'ai la responsabilité de tous les hommes d'aujourd'hui. Je serai écrasé. Tandis qu'au plan divin, dans le Christ, je suis responsable de tous les hommes. C'est notre lien avec le Christ qui est tête. C'est notre lien d'amour avec Jésus, dans la foi, l'espérance et la charité, qui fait que je suis responsable de tous les hommes. C'est pour ça que je ne peux pas m'isoler. C'est impossible. Et c'est ce qui fait comprendre comment le fruit, la fécondité de l'Église, c'est la charité fraternelle. La charité fraternelle exprime cette fécondité étonnante de l'Église. Et ça montre bien la finalité profonde de l'Église. La finalité de l'Église, c'est de fait de glorifier le Père dans la charité fraternelle. Et vous voyez, la charité fraternelle et la contemplation ainsi que l'adoration, sont liés dans la grâce et inséparablement liés dans la grâce. Je ne peux pas aimer mon frère sans adorer et sans contempler le Christ, puisque je l'aime dans la lumière du Christ. Et l'Église, c'est ce tissu de charité fraternelle qui est tous unis, dont on est conscient et quelquefois dont on n'est pas très conscient. Mais c'est ce tissu. J'aime de citer cette parole d'un évêque. Certains d'entre vous connaissent bien. D'un évêque missionnaire. J'ai assisté à beaucoup d'ordinations au seul soir chez les dominicains. Il y avait le repas d'ordination et après le repas d'ordination à la fin, il y avait toujours le toast de l'évêque, qui n'était pas la même chose que son homélie. C'était quelque chose de plus particulier. Et alors, il y a un évêque missionnaire qui a dit cela. C'est le seul toast que j'ai gardé dans mon cœur, parce qu'il était très court. Et puis qu'il était très percutant. Cet évêque missionnaire s'est levé en disant « Mes frères dans le sacerdoce, n'oubliez jamais que l'Église, ce sont des relations personnelles. Là où il n'y a plus de relations personnelles, il n'y a plus l'Église. » Ça va très loin, ça. Vous voyez, l'ordinateur n'est pas un instrument du Saint-Esprit. Parce que c'est l'organisation. L'organisation n'est pas des relations personnelles. On organise en fonction de l'efficacité. Les relations personnelles sont toujours finalisées. Et je crois que c'est très fort, ça. Pour bien comprendre, l'Église est un tissu de relations personnelles. Et ajoutons, c'est un tissu de relations personnelles dans la charité, dans l'amour. Et donc en impliquant tout le temps un choix, on se choisit. Le Christ nous a choisis, nous répondons à ce choix du Christ. Et tous ceux que le Christ met autour de nous, nous les choisissons dans le Christ et nous les aimons dans le Christ. Un tissu de relations personnelles. Là où il n'y a plus ces relations personnelles, où on est en face de l'anonymat. L'anonymat n'est pas du Saint-Esprit, c'est du démon. Le démon aime d'être anonyme. Je m'appelle Légion. Le Saint-Esprit n'a jamais dit ça. Et c'est le démon qui dit ça. Je m'appelle Légion. C'est justement l'inverse des tissus, des relations personnelles. Alors ça passe par des intermédiaires. Et parce que ça passe par des intermédiaires, c'est des intermédiaires anonymes qui effacent le point de vue des relations personnelles, des relations vraies et profondes. Je m'appelle Léon. Et opposez les deux et vous comprendrez mieux ce que ça représente, justement. Ce tissu de relations personnelles, de la charité fraternelle. Dans la charité fraternelle, on est responsable de ses frères en face de Dieu. Alors, une responsabilité, encore une fois, qui est limitée. Parce que nous ne pouvons pas être leur sauveur. Mais dans le Christ, nous les portons. Ceci, c'est très important. Oui. Et ça permet, je crois, ce serait très intéressant, j'ai jamais vu ça au point de vue théologique, développer. Je crois que ce serait très intéressant de développer tout un traité de la grâce en fonction des comparaisons dont nous parlions ce matin. Et on verrait d'une façon beaucoup plus concrète ce qu'est la grâce. Ce qui fait ses liens avec la tête, avec le cep, avec la pierre angulaire, avec l'époux, avec le roi. Jésus étant roi de son royaume. Lien avec Jésus et par lui avec ses frères, avec nos frères. Pour pénétrer un peu plus avant dans le mystère de l'Église, il faut comprendre que l'Église, c'est un vivant. L'Église vit de la vie du Christ. L'Église vit de la vie de l'Esprit Saint. L'Église vit de la vie du Père. L'Église est trinitaire, si vous voulez. Il ne faut pas l'oublier. C'est Jésus qui en est la source immédiate. Mais comme Jésus, c'est le Fils bien-aimé. Par Jésus, l'Église entre en communion avec la très sainte Trinité. Et on peut dire que d'une certaine manière, comme l'Église est le plérôme du Christ, plérôme, complément, achèvement. Et c'est pour ça que l'analogie de l'époux et de l'épouse, l'épouse comme l'achèvement, la complémentarité de l'époux, l'Église est la complémentarité du Christ. Mais il faut tout de suite ajouter que la mission de l'Église est la même que celle du Christ. Mais en complémentarité. C'est pas l'Église qui détermine le Christ, c'est l'Église qui est déterminée par le Christ. Et c'est le Christ qui fait comprendre à l'Église sa finalité propre. Et ça, c'est très très important. La mission de l'Église n'est pas une mission temporelle, voyez. Alors, comme on fait facilement des erreurs en ne regardant que le messianisme temporel. On tombe dans les mêmes erreurs par rapport à l'Église. Et ça, c'est très à l'ordre du jour. On voudrait que l'Église ait une mission temporelle. L'Église a une mission divine, sauver l'humanité avec Jésus dans le milieu. mystère de la compassion. Et vivant le mystère de la croix dans son cœur de croyante, d'espérance et de charité, toute l'Église est engagée à la suite de Marie dans le mystère de la compassion.
Nostalgie.
une espèce d'attitude doloriste. Il ne s'agit pas de ça, c'est encore du psychologisme. La croix, elle est vécue dans la sagesse de Dieu. Elle est vécue de manière contemplative. C'est l'œuvre de la contemplation, la croix. Donc elle ne peut être vécue que d'une manière contemplative. Dans la foi, l'espérance et l'amour. Et à travers le cœur de Marie, dans son mystère de compassion. Mais c'est très important de comprendre ça. Parce que tout mystère de l'Église est un mystère de lutte, l'Église militante. Mais c'est là où il faudrait, pour bien comprendre cette Église militante, regarder l'Apocalypse. L'Apocalypse nous montre l'Église dans ses grandes luttes. Et ces luttes sont actuelles. Elles seront actuelles jusqu'au retour du Christ. C'est pas commun, ça, de regarder ça de façon très réaliste. On n'aime pas tellement de regarder de façon réaliste les luttes. On aime mieux prendre la politique de l'autruche. C'est quand un gros orage monte, allez vite nous coucher. Il vaut mieux se mettre loin. Évitons cet orage. Et l'Apocalypse nous montre ces gros orages qui montent. Après l'un, c'est l'autre. L'Église militante. Parce que l'Église est née à la croix. Et l'Église nous lie à la croix. Tu vois, l'Église se développe liée à la croix. Notre grâce est une grâce chrétienne qui nous lie à la croix du Christ. Pour ça que nous vivons de la foi, de l'espérance et de la charité dans une lutte constante. Jésus le dit, hein. Ce sont les violents qui obtiennent le royaume de Dieu. C'est pas en se laissant couler, en se laissant aller. L'abandon divin n'est pas l'abandon psychologique. L'abandon psychologique, on n'a qu'à se laisser couler. C'est difficile ça, c'est difficile de maintenir ça, hein, cette lutte constante. Parce qu'on est vite fatigué. Et alors, comme nous sommes au XXe siècle, hein, il y a 2000 ans de lutte, pas comme à la portée. Et ça fait partie du mystère de l'Église. Dans la primitive Église, ils étaient tout proches de la croix. Nous sommes tout proches du retour du Christ. Et nous avons 2000 ans à porter comme lutte. Et nous avons envie de temps en temps de dire c'est suffisant. Alors à ce moment-là, on parle d'une adaptation parfaite au monde pour que le monde ne nous rejette plus et pour qu'il n'y ait plus la haine du monde par rapport à nous. Alors on devient terriblement conciliant et on accepte tout. Et c'est un peu ce qui se passe constamment. C'est très souvent un effet de fatigue, ces conciliations, ces adaptations. Vous voyez, ce libéralisme forcené au point de vue moral, au point de vue spirituel. On n'a plus le courage de lutter. On n'a plus le courage d'être l'Église militante. Comprenons bien que la croix, c'est le sommet de la lutte. Et nous sommes nés à la croix. Donc nous sommes liés à ce sommet. C'est pour ça que c'est pas commode. C'est pas commode de vivre le mystère chrétien actuellement, au XXe siècle. L'Église militante. Lutte par rapport à la foi. Lutte par rapport à l'espérance. Lutte par rapport à la charité. Lutte par rapport à la grâce qui doit assumer toute la nature humaine. mépriser sans la rejeter, en l'aimant. Je dois aimer mon corps de charité divine. Je dois aimer mon intelligence de charité divine. Je dois aimer mes passions de charité divine. Je dois aimer mon psychisme de charité divine. C'est-à-dire, je les aime pour que la charité puisse assumer toute cette nature humaine. Je ne dois pas la rejeter. La lutte, elle est premièrement intestine, au plus intime de moi-même, puisque je suis né dans le péché. Ça aussi, c'est important de se le rappeler pour le comprendre le mystère de l'Église. Nous sommes nés tous dans le péché. Et donc, il y a une guerre intestine qui n'est pas commode à accepter. Vous savez que c'est la plus difficile. Hein. La guerre avec des ennemis extérieurs, ça va très bien. Tu vois, ça va très bien. Ça va mieux. Tandis que la guerre à l'égard de ce que nous portons en nous, c'est très difficile. C'est très difficile de reconnaître qu'il y a en nous des constante à l'égard de celui qui est l'ennemi de Dieu. Donc il y a en nous une opposition vis-à-vis de Dieu. Ça explique du reste les athéismes. On n'aime pas d'avoir une dualité en soi. On n'aime pas de reconnaître qu'il y a en nous un appel vers Dieu, un appel vers le Christ, un appel d'amour vers nos frères. Et qu'il y a en nous un orgueil terrible qui n'accepte pas Dieu. Qu'il y a en nous un égocentrisme effrayant qui veut qu'on soit tout le temps flatté. Qu'on soit tout le temps le premier. Soit tout le temps celui qui réussisse le mieux. Et puis il y a en nous une tendance terrible vers la concupiscence de la chair, concupiscence charnelle. Il y a en nous ces trois concupiscences. Et ces trois concupiscences ne sont pas de Dieu. Elles sont du démon en nous. Conséquence du péché d'orgueil. Et ceci, nous devons le reconnaître, en avoir une conscience de plus en plus nette. Ça fait partie de l'Église militante. Le combat, il est d'abord au plus intime de notre cœur, de notre âme. Saint Paul le dit, qu'il y a en lui deux hommes, et qu'il fait le mal qu'il ne voudrait pas, et le bien qu'il voudrait, il ne le fait pas. Exprimer d'une façon très très forte ce que représente cette lutte. Oui, c'est là où on voit que la sincérité n'aboutit à rien. Parce que au niveau psychologique, c'est très difficile de discerner le bien et le mal. Puisque nous sommes nés dans le péché. Donc j'allais presque dire, les concupiscences nous sont comme naturelles. Ça m'habitue à ça. Ça m'habitue aux tendances d'orgueil, aux tendances de vanité, aux tendances de concupiscence. Il faut s'élever, sortir du psychologisme pour entrer dans l'intimité avec le Christ, pour qu'on puisse, dans la lumière du Christ, voir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Vous voyez, cette lutte, et aujourd'hui c'est très important, en face d'idéologies comme le freudisme qui risque tout le temps de nous replonger dans une attitude purement psychologique. On oublie ce que Jésus dit à Nicodème, qu'il y a deux naissances en nous, la naissance selon la chair et le sang, et la naissance selon l'esprit. Et Jésus souligne, toi qui es un docteur en Israël, tu oublies ça. Alors que c'est élémentaire. Vous savez bien que dans un combat, si on ne sait pas où est l'ennemi, on est sûr de perdre. Et donc si on ne sait pas si en nous, si on oublie qu'il y a en nous une source qui nous conduit vers le péché, on est perdu d'avance. J'insiste un tout petit peu parce que de fait, une des tactiques du démon aujourd'hui, c'est de nous faire oublier cette lutte interne. Et ce livre qui est paru il y a quelques années, ce livre d'Hénard, Morale sans péché, c'est très significatif. Alors on voit très bien. Et c'est toute une tentation permanente de nous laisser prendre uniquement par la sincérité psychologique. Cette lutte est interne, cette lutte est externe. Dans l'Apocalypse, ça nous est montré. Le serpent antique, c'est le dragon. Et c'est l'adversaire. Le démon, c'est le prince du mensonge. C'est le serpent antique. C'est celui qui nous intimide par sa puissance. Et c'est celui qui ne cesse de nous mettre dans des voies qui ne sont plus celles de Dieu et qui nous accusent. Il y a donc une lutte externe à l'égard du démon. Il ne faut pas l'oublier. Le démon se dit le prince de ce monde et le démon à la croix croit qu'il est victorieux. Il est persuadé qu'il est victorieux. C'est vrai que ça va loin, le pouvoir du démon. Arriver à mettre le Fils de Dieu cloué sur la croix. Lui enlever sa liberté extérieure. D'homme libre et d'arriver à le condamner comme blasphémateur, c'est le comble pour le Fils de Dieu. Il est arrivé à cela. À la croix, il est persuadé d'être victorieux. Qu'enfin, celui qui l'intriguait et qui était l'adversaire par excellence est obligé de se taire. Et la croix nous fait comprendre ce que le démon continue de faire par rapport à l'Église. l'histoire de l'Église, vous apercevez que c'est tout le temps des attaques sournoises qui prennent toujours des formules différentes. Et plus on s'approche du terme, encore une fois, c'est la vision de l'Apocalypse, plus la lutte est forte. Au début, c'était des catacombes visibles. Maintenant, c'est des catacombes spirituelles. Tout s'intériorise dans une lutte toujours plus forte. Et ça, c'est le mystère de l'Église. Parce que le mystère de l'Église est lié au mystère du Christ. Et tout ça est contenu dans la parole de Jésus. Si le monde m'a haï, il voit Iran. Et la haine du monde, elle s'est traduite à travers la trahison d'un ami. Elle s'est traduite par la jalousie des grands prêtres et du Sanhédrin. Et c'est toujours comme ça. Il y a toujours la trahison des amis. Et il y a toujours la jalousie des grands prêtres. Parce que les passions religieuses, comme les passions politiques, sont les choses les plus terribles. Un fanatisme. Alors pour comprendre, parce qu'il faut essayer de comprendre la tactique de l'ennemi, il faudrait, voyez, aujourd'hui, puisque c'est l'Église d'aujourd'hui que nous regardons, c'est notre Église, c'est l'Église qui est en France, c'est l'Église qui est en Europe, c'est l'Église qui est dans l'Inde, c'est l'Église qui est en Chine, en Amérique. Pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette Église militante? C'est quand même important de comprendre ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette Église militante? Si je veux être parfaitement croyant et chrétien, vivre du sacrement de confirmation, un chrétien adulte, un chrétien qui accepte de lutter, qui accepte de témoigner, il faut que nous comprenions la lutte actuelle de l'Église. Vous voyez, les paroles de saint Paul, les paroles de saint Jean demeurent toujours actuelles. L'Apocalypse nous aide à comprendre comment ce mystère de l'unité de l'Église, il est constamment mis en échec devant le démon qui sème la cisanie. Le démon sème la cisanie, c'est-à-dire qu'il divise pour régner. Je me souviens, c'était au début du concile, hein. J'étais à Fribourg à ce moment-là. J'avais un cher père dominicain polonais qui recevait tous les jours le journal de Moscou, puisqu'il lisait bien le russe. Et au petit déjeuner, me mettant souvent à côté doctrine, on l'attaquera, on la divisera. Il n'y a rien de plus pénible pour les fidèles de voir cette division à l'intérieur même des théologiens. De voir cette division au point de vue du gouvernement de l'Église. On divisera l'Église en deux. Comprenez bien ce mot d'ordre qui, je crois, est du démon. L'Esprit Saint veut l'unité et le démon veut l'instabilité, la destruction de l'unité et la division interne. Division au point de vue de l'unité du corps. Division au point de vue de l'amour de l'épouse et de l'époux. Division au niveau des pierres par rapport à la pierre angulaire. Division qui conduit à l'infécondité. Plus de charité fraternelle, plus de confiance. On voit très bien comment le démon joue ce rôle terrible de diviser. Et combien c'est difficile aujourd'hui de maintenir l'unité dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Le Saint-Père, quand il est venu à Paris pour la première fois, a réuni les évêques français à huis clos. Heureusement que dans la documentation catholique, ça a été reproduit après. Et je l'ai lu attentivement. Parce que c'est intéressant de savoir ce que le Saint-Père disait aux évêques français. Moi, ça m'intéresse, du moins. Et le Saint-Père termine en disant: n'oublions pas que l'Église connaît actuellement des tentations comme elle n'a jamais connues. Donc le Saint-Père nous met en état d'alerte. Ça n'a pas été très reproduit, ce texte. Les théologiens n'ont pas beaucoup fait attention à ça. Alors qu'ils auraient dû faire attention à ça. Parce qu'un homme averti, hein, il en vaut deux. Il est beaucoup plus fort. Au point de vue de sa prudence. Le Saint-Père avertit que l'Église d'aujourd'hui connaît des tentations comme elle ne l'a jamais connue. Donc le Saint-Père ne dit pas: oh, oui, c'est comme toujours, l'Église, c'est l'Église militante, c'est normal, tout ce que nous vivons. Non. Il dit qu'il y a quelque chose de tout à fait caractéristique à notre monde d'aujourd'hui. C'est d'être en face de tentations d'une subtilité et d'une force plus grande qu'avant. Et comme le Saint-Père est un théologien, connaît actuellement une méta-tentation plus forte que la première tentation d'Ève par rapport au serpent. L'Église connaît une méta-tentation, la tentation par excellence. C'est ça que ça veut dire. Et le Saint-Père explicite: cette tentation, c'est que l'homme veut être sauveur de l'homme. L'homme n'a plus besoin du Christ pour se sauver. L'homme ne reconnaît plus le Christ comme sauveur. L'homme prétend être sauveur des hommes. Et voyez, là, c'est la tentation la plus terrible par rapport à la finalité de l'incarnation, par rapport à la finalité de l'Église. Si l'homme prétend être sauveur de l'homme, l'homme n'a plus besoin du Christ et de l'Église. C'est de considérer que le mystère du Christ